Lekonen reçoit le signal. Saisit la rondelle. Lancé de pénalité. Ça mène devant Bishop. Il peut il lance l'arrêt. Bel arrêt de Bishop. Et c'est un arrêt clé, Danny, en début de deuxième, comme ça, alors que les Stars sont en avantage numérique.
Oui, effectivement, c'est peut-être un des points tournants du match d'hier avec les trois poteaux touchés par le Canadien et l'indiscipline en troisième période. C'était 0-0 au moment où Arturi Lekkonen se voit accorder un tir de pénalité qui a été bloqué par Ben Bishop. Par la suite, les Stars ont pris les devants 2-0 dans la rencontre. Brandon Gallagher a resserré les choses en début de troisième, 2-1. Mais là, le Canadien a fait preuve d'indiscipline, a accordé un but aux Stars qui est en désavantage numérique. Radulov a complété dans un filet vide et Dallas l'emporte 4-1. Mais disons qu'hier, là, les Stars ont été beaucoup plus opportunistes que le Canadien, qui a eu ses chances de l'emporter sans succès cependant. On peut écouter un commentaire de Claude Julien sur la rencontre d'hier soir.
Même si c'est 4-1, c'est pas que c'était un mauvais match, mais on a des choses qu'on aurait pu faire un peu mieux. J'ai trouvé que nos défenseurs ont donné beaucoup d'espace dans la zone centrale pour donner la vitesse, surtout en deuxième période. Mais je pense que l'effort était là. Malheureusement, le résultat n'y est pas.
Et ce ne sont pas les vedettes des Stars qui ont fait la différence hier, les Tyler Seguin, Ben ou Radulov ou Spezza. Devon Shore a obtenu 3 points, un but, 2 passes. C'est ça, Lindell, un but, 1 aide pour les Stars de Dallas. Et le gardien Ben Bishop a été très bon. Il faut dire que Bishop, disons, est habitué à jouer au Centre Bell, a porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay pendant plusieurs saisons, a affronté le Canadien en séries éliminatoires et pas très intimidé quand il joue à Montréal, même si tout au long du match, là, la foule scandait son nom. Ben Bishop, au contraire, ça a semblé le motiver, a été excellent devant le filet de son équipe. Prochain match, c'est demain contre les Capitals de Washington. Samedi, le Lightning de Tampa Bay. Alors, c'est certainement la semaine la plus difficile du Canadien depuis le début de la saison. Et hier, on a annoncé que Nikita Sherbak avait été cédé au Rocket de Laval. C'est pour remise en forme. Alors, il n'a pas à passer par le ballotage, mais ça veut dire qu'il ne sera pas là éternellement non plus. Là. Et d'ailleurs, on devrait le revoir assez rapidement à Montréal parce que Paul Byron n'a pas terminé le match d'hier. Blessé au bas du corps, on devrait en connaître davantage sur la nature de sa blessure aujourd'hui. Et juste vous dire que les Sénateurs ont perdu 5-1 hier en Arizona et qu'Alex Galchenyuk a marqué son premier but dans l'uniforme des Coyotes. Je vais te parler d'une enquête de la CBC qui a été menée sur la Fondation des Canadiens pour l'enfance. C'est une journaliste de la CBC qui a tenté d'obtenir les états financiers de la Fondation. Évidemment, on a refusé, on n'a pas obtempéré à sa demande. Alors, elle s'est adressée à Revenu Canada. Elle a obtenu les chiffres qu'elle a fait analyser par Charity Intelligence Canada, qui est un organisme, une espèce d'organisme chien de garde qui étudie comme ça les états financiers des fondations au pays. Il faut savoir que la Fondation des Canadiens pour l'enfance est une des plus grosses au Canada. Sauf que l'organisme en question, qui est basé à Toronto, donne une note 1/4 à la Fondation des Canadiens. D'abord, au départ, en raison d'un manque de transparence, la Fondation perd déjà un point là. Même si il n'y a pas d'obligation à dévoiler ses états financiers, quand on est une fondation et qu'on fait appel à l'argent du public, on dit que c'est préférable de jouer carte sur table avec les gens. L'autre chose, c'est que on retourne à peu près 62 sous par dollar récolté à la Fondation, ce qui est nettement en deçà de ce qui se passe habituellement. C'est entre 80 et 90 sous habituellement qu'une Fondation va remettre à différents organismes. Sauf que on admet que chez le Canadien, les activités de financement coûtent cher. Le tournoi de golf, par exemple, le Radio Téléthon des Canadiens, sont des activités qui mobilisent beaucoup de monde et qui coûtent cher. Ce qui fait que c'est peut-être une des raisons pour laquelle le Canadien remet moins que les autres organismes de charité. Et on s'interroge, est-ce qu'on ne devrait pas tenter de récolter de l'argent autrement, de façon à en remettre davantage aux œuvres de charité. L'autre chose...
dans le fond, c'est vrai des pourcentages, là, mais en même temps, ça leur coûte combien pour amasser combien? Ça peut, tu sais, des fois, tu peux retourner 80-90%, mais tu retournes pas grand-chose non plus.
Oui, c'est ça, ça dépend.
Ça dépend des volumes aussi, mais c'est vrai que... c'est idéalement, il faut que tu retournes au moins 80 % de l'argent.
Ouais, 80 cents dans la pièce, là, comme on dit. Là. C'est ça qui est à peu près. Entre 80 et 90 cents dans la pièce, c'est ça qui est la moyenne. L'autre chose qui intrigue un peu l'organisme en question, c'est que la Fondation est assise sur un fonds de réserve de 6,5 millions de dollars. Ça semble-t-il que c'est beaucoup. Les fondations qui ont autant d'argent disponible, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tout ça fait qu'on donne une note de C+ à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, alors que la moyenne au Canada, c'est B.
Tu me disais tantôt toi, que Whitey Bulger, qui est mort en prison, là, qui était le chef de la mafia irlandaise à Boston, qui a disparu pendant 16 ans, qu'on a retrouvé à Santa Monica avec sa nouvelle blonde, 89 ans, puis il a fait, je pense, 6 crises cardiaques depuis qu'il est en prison. C'était l'ancien beau-père de Chris Nyland.
De Chris Nyland. Quand le film, c'est Black Mass avec... comment est-ce qu'il s'appelle le comédien qui fait le Pirate des Caraïbes? Là,
Johnny Depp.
Johnny Depp est sorti. Là, évidemment, beaucoup de gens sont allés le voir, dont des gars avec qui je travaille, Guy Carbonneau, entre autres. Et Carbo racontait qu'il l'a très bien connu parce qu'il venait souvent à Montréal, à l'époque où Chris Nyland jouait pour le Canadien, et on le voyait régulièrement dans le vestiaire après les matchs. Et quand l'équipe allait à Boston, il y a très souvent, c'est lui qui sortait les joueurs, et puis c'est lui qui ramassait le bill à la fin de la soirée. Puis non, c'était quelqu'un qui a été dans l'entourage du Canadien de par sa filiation avec Chris Nyland là, pendant quelques années.
Quand il était plus le beau-père de Chris Nyland, je sais pas qui a laissé qui, là, c'est madame ou c'est...
J'espère que ça s'est bien fait.
Si le beau-père est en tabarouette, c'est le genre de beau-père que tu veux pas avoir dans...
Il faut croire que oui, parce que, écoute, Chris est de retour à Montréal et travaille maintenant dans les médias à Montréal.
M. Bulger, juste pour vous dire, est soupçonné d'avoir commandé une vingtaine de meurtres.
Et son frère était un homme politique très important dans l'État du Massachusetts. D'ailleurs, dans le film, on les voit ensemble. Là, c'est... Hey, ça lui, fait une là... pas pire connexion, en tout cas.
Ouais, hein? Comme disait Richard, tu sais, le gars a vendu des informations au FBI. Il a manipulé le FBI qui l'ont laissé à ses activités criminelles pareilles pendant ce temps-là. Alors, comme disait quelqu'un hier, il n'est pas mort de sa vieillesse.
Non, pas mort de cause naturelle.
Pas vraiment. 8h26. Les ponts de la Rive-Sud.